RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Le Super Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois, mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Jean-Christophe Drouet.
De retour dans l'after avec toi Filou Maoulida, avec Jérôme Roten, avec Dessy, on coupe du bois, on fait beaucoup de choses, avec Thierry Guillou aussi, formateur du FC Lorient. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Il va tout nous expliquer, il a sorti un livre en début d'année qui s'appelle « Football et formation, une certaine idée du jeu » aux éditions L'Harmattan. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci de venir nous parler de la formation. C'est vrai qu'on n'en parle pas tout le temps dans cette émission, surtout avec Jérôme et toi Philou, on parle beaucoup d'argent, de Coupe d'Europe, tout ça. Et là, ça fait du bien de remettre un petit peu les bases, le cœur du jeu au centre de cette émission. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est
des magots, c'est ça?
Complètement.
On est sur
BFM Sport, dans le RMC, groupe RMC, ouais. BFM, tout ça, d'accord.
Ouais.
T'es plus dans l'ancien groupe, hein.
J'avais confondu.
Là, c'est une vraie mission de football.
Ah oui, d'accord.
Là, tu parles football.
Ah,
c'est vrai que des fois, t'es un peu largué, mais oui. Tu commences à t'y mettre quand même.
D'accord. Alors, bienvenue
donc,
à tous.
Laisse parler Thierry.
Sur RMC, BFM Sport.
Laisse parler Thierry, là, il va te parler football.
Je suis très heureux d'être parmi vous. Alors Thierry, vous travaillez depuis 2013 au centre de formation du FC Lorient, entraîneur des U19, et donc vous avez sorti ce livre. Première question toute simple, mais pourquoi venir parler de la formation? Oui, c'est votre métier, mais pourquoi? Parce que vous avez la sensation qu'on parle surtout d'autre chose aujourd'hui et pas forcément de la formation qui est essentielle.
Parce que moi j'avais la volonté de structurer ma pensée et ensuite de la faire partager. Donc écrire ce livre c'était un moyen de partager et notamment de faire ce focus sur la formation. C'est vrai que c'est quelque chose qui reste assez peu médiatique et c'est très bien dans le football, mais ça permet de le mettre un petit peu en lumière.
Est-ce que vous pouvez me passer le livre, comme ça je vais le montrer forcément à tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent sur BFM Sport évidemment, et ça s'appelle Football et Formation, si vous êtes à la radio tant pis pour vous, allez sur les réseaux sociaux. Ça s'adresse à qui? Est-ce que ça s'adresse aux autres formateurs, aux dirigeants de clubs peut-être, qui ne suivent pas forcément vos conseils, en tout cas qui ne s'intéressent pas forcément à la formation, aux entraîneurs?
Alors ça s'adresse déjà à tous les passionnés de football, aux éducateurs certainement un peu plus particulièrement parce qu'il y a quelques aspects techniques, même si ça reste un livre pas vraiment didactique ou analytique, mais il y a quelques éléments techniques, donc aux éducateurs, aux étudiants également qui se penchent un petit peu sur les questions liées au football et à la formation.
Alors entraîneur et formateur, c'est pas le même métier, c'est pas la même chose.
Non. C'est pas la même chose. Et dans les contenus, parce que je pense que ce qui peut être très efficace au niveau d'une équipe professionnelle n'est pas toujours adapté au développement des jeunes. Donc voilà, au niveau de l'approche pédagogique également, on a un rôle qui est différent puisqu'on doit encore, même si je pense que le joueur professionnel continue à progresser tout au long de son parcours. À 20 ans, on n'est pas un joueur qui a fini de progresser, donc le joueur continue à se développer, mais c'est sûr que la période de formation est propice à un développement très important.
Mais un formateur peut être un très bon entraîneur.
Un formateur peut être un très bon entraîneur, effectivement.
J'essaye de remonter j'essaye de remonter à la jeunesse de ce bouquin, parce que vous avez quoi? Vous avez 32 ans, je crois.
33 ans. Ouais.
33 ans. Et vous avez rêvé de devenir footballeur professionnel?
Oui, comme
beaucoup de monde. Bienvenue au club. À un moment donné, on a senti que ça allait sentir la raclette, donc fallait pas pousser plus loin. Donc vous étiez gardien d'ailleurs.
Hein. Exactement.
Donc vous êtes dit, la marche elle est un peu haute. Je vais faire des études. Vous avez, je crois, un master en management du sport.
Oui.
Et je vais expliquer ma passion et je vais devenir formateur. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé.
Effectivement, j'ai certainement pas tout bien fait dans mon parcours de formation en tant que joueur, parce qu'à 18 ans que j'ai pas été conservé au centre de formation, et j'avais certains regrets parce que j'ai pas tout mis en œuvre, malgré que j'avais une grosse volonté d'y parvenir, j'ai fait des erreurs et j'avais envie de transmettre et peut-être permettre à des jeunes garçons d'éviter de commettre les mêmes erreurs. Ou voilà, j'ai porté une analyse sur mon parcours à moi. Après, je me suis engagé dans les formations d'entraîneurs, dans les formations universitaires, pour transmettre au plus jeune.
Oui, toi, Philou.
Moi, je tenais d'abord à vous féliciter pour le livre.
Merci.
Je l'ai pas lu entièrement. Je vais être sincère, parce que notre producteur Jérôme Thomas nous l'a envoyé il y a très peu de temps.
Voilà, c'est de la faute de Jérôme Thomas.
Il y a deux heures. Voilà, pour être très clair, il y a 3 heures et quart qu'il nous l'a envoyé.
Ça fait un mois qu'il nous l'a envoyé il y a très peu de temps.
Voilà, j'ai lu le début et j'avais juste une petite question, c'est que dans le livre, tu dis qu'il y a 3 personnes qui t'ont influencé, Johan Cruyff.
Christian Gourcuff
et Régis Lebris, si je me trompe pas.
Ouais. Formateur du Stade Rennais.
Et Jean-Marc Guillou.
Parmi ces personnes-là, laquelle des trois t'as vraiment le plus influencé? Et pourquoi?
Alors, certainement, parce que j'ai été baigné plus longtemps dedans, c'est Christian Gourcuff. Parce que jeune, j'étais au centre de formation quand lui était entraîneur. Ensuite, j'ai été éducateur quand lui était entraîneur. Et j'ai été spectateur au Moustoir pendant des années quand lui était entraîneur. Et il faut savoir qu'il a eu un rayonnement quand même sur l'ensemble de Lorient. Il a même éduqué les spectateurs qui sont du coup très, très exigeants parce qu'il a vraiment éduqué un certain style de jeu. Et donc, dans le temps, c'est certainement Christian Gourcuff qui m'a le plus.
Sincèrement, je m'en doutais que tu allais me dire parce que Christian Gourcuff ressort beaucoup dans le livre. Moi, je l'ai eu en tant qu'entraîneur. C'est lui qui m'a fait venir de Montpellier à Rennes. Je l'ai eu. C'est un entraîneur que j'apprécie beaucoup, qui prône beaucoup le jeu. Et je sais que dans le livre, c'est le jeu, la philosophie qui est différente. Parce que souvent, ce que j'ai lu, c'est que voilà, dans les centres de formation, souvent, on formate un peu les jeunes, tout ça. Alors que on ne prône pas assez le jeu, voir tout ça, et Christian Gourcuff, c'est l'exemple type d'un entraîneur qui prône le jeu, qui aime le jeu, cette philosophie-là, et voilà, c'est l'entraîneur que j'aime beaucoup, et il est ressorti beaucoup dans ton livre, et voilà, je vais finir de le lire. Et après,
En tout cas, dans les 5 premières pages que j'ai lu,
tu peux demander. Au moins, je l'ai lu. Jérôme, tu l'as lu?
Mais oui, pareil que toi, mais les 5 premiers.
C'est pas le débat. En tout cas, Christian Gourcuff fait la préface et c'est pas Pep Guardiola. Donc, forcément, Thierry qui est avec nous rend hommage à Christian Gourcuff.
Tu t'occupes de quel niveau, là?
U19.
U19. D'accord.
La U19 à Lorient, football et formation, une certaine idée du jeu. Sur ce livre, on a bien compris que tu voulais nous parler de la formation, parfois des dérives aussi, du formatage des joueurs. Comment va la formation française aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dresser un état des lieux?
Ouais, bah en termes de qualité individuelle des joueurs, elle est très performante. Si on prend, vous entendez parler tout à l'heure de l'équipe de France et des nombreux joueurs de moins de 25 ans qui évoluent dans cette équipe-là, qui sont quand même des joueurs à très fort potentiel. Varane, Umtiti, Lemar,
Mbappé,
et tous ces joueurs-là, c'est quand même des joueurs qui individuellement sont extrêmement performants. Et je pense que c'est une chance en France d'avoir ce réservoir-là. Après, c'est un petit peu le contenu du livre, c'est comment on peut faire émerger à partir de cet talent-là une identité de jeu à une équipe et comment ces joueurs-là peuvent s'inscrire dans un jeu collectif. Et je pense que là, on a une marge de progression à l'échelle de la formation en fait avec un réel projet de jeu de la formation qui ensuite dépeint sur l'équipe première. Mais pour ça, on a quand même, donc grosso modo, c'est un petit peu ce que je vois, c'est que les clubs professionnels se sont construits sur un modèle économique avec la vente des jeunes joueurs formés au club. Donc ils sont un petit peu prisonniers de ce système-là, c'est-à-dire que au bout de une ou deux bonnes saisons, ils sont très vite vendus ou dans un autre gros club français ou à l'étranger. Et ça permet
pas, en fait, d'Ousmane Dembélé, par exemple.
Et ils sont très nombreux, presque tous les joueurs que je viens de citer auparavant sont concernés. Donc ils n'ont pas le temps d'imprégner en fait l'équipe première de leur passage et d'avoir plusieurs joueurs comme pouvait l'être à l'époque le FC Nantes, 4, 5, 6 joueurs, parce qu'on sait que pour imprégner et pour que le jeu d'une équipe se développe, il faut au moins un noyau de 6-7 joueurs qui se comprennent et qui se connaissent depuis leur jeune. Et le problème, c'est que le modèle économique est construit de telle manière que ça permet pas d'imprégner durablement l'équipe première. Voilà. Et je pense qu'il y a une vraie marge de progression dans ce domaine. Voilà.
Ouais. Est-ce que vous avez senti, là, messieurs, là, les footballeurs à l'INF Clairefontaine ou alors à Montpellier, dans votre formation, que on cherchait l'identité de jeu, parce que c'est vraiment cher à Thierry Guillou qui a signé ce bouquin sur la formation, ou est-ce que finalement on voulait faire de vous des machines à cash, si je peux m'exprimer ainsi.
Écoute, moi, pour commencer, déjà, il faut dissocier. Hein, le Clairefontaine, c'est un centre de préformation, c'est pas un centre de formation. Donc, la préformation dit préformation, dit t'apprends les bases du football. Ce que je veux dire, c'est là, t'as pas un projet de jeu collectif à Clairefontaine. C'est
oui, t'as intégré Clairefontaine à 13 ans, je crois.
Ouais, c'est on t'apprend les bases et on développe, on essaye de développer et d'améliorer tes points forts déjà, et puis les faiblesses aussi, parce que t'es tous les jours sur le terrain. Ça, c'est une chance à 13 ans d'être tous les jours sur le terrain avec avec des éducateurs qui sont quand même, qui étaient renommés à l'époque, ils le sont encore hein, certainement. Je les connais moins aujourd'hui, donc c'était une référence moi à l'époque. Clairefontaine, c'était moi j'ai Francisco Filio, mon préformateur, voilà, qui m'a tout appris d'un point de vue bagage technique. Ça, c'était mes trois premières années à Clairefontaine. Après, quand je suis arrivé au Stade Malherbe de Caen, là, oui, il y avait un projet de jeu. C'était le directeur du centre de formation, c'était Pascal Théo à l'époque. Pascal avait une idée bien précise de ce qu'il voulait amener collectivement avec ce 4-4-2 à plat qui ressemblait un petit peu à ce que Christian Gourcuff faisait. Hein, tu vois, on avait à peu près les mêmes. Il y avait des choses qui variaient parce qu'il nous en parlait souvent de la différence avec Christian Gourcuff tactique. Dans ce 4-4-2, mais là on était voilà, on était peut-être prisonnier de cette de ce schéma de jeu, si tu veux, tu vois. Souvent on disait, comme on pouvait le dire à Nantes à l'époque, quand tu sors de Nantes, c'est difficile pour les joueurs individuellement d'exister. On l'avait ressenti avec Reynald Pedros, avec Nicolas Wedek, avec Patrice Loco entre autres, qui étaient des hommes forts. C'est vrai que quand tu sors de cette bulle où tu sais, en fait, Siodo, pour parler avec tous les mecs qui l'ont eu, même Reynald Denwex, ils anticipaient déjà ce que tu devais faire sur le terrain et tout ça. Alors après, bien sûr que le football, il y a la sensation sur le terrain. Il faut aussi inventer par moment. Mais t'es dans une bulle plus ou moins. Et ben Pascal Théo, moi à Caen, c'était un peu ça. Voilà, dans ce rôle milieu gauche, je me souviens, j'étais le quatrième milieu à gauche. Je devais faire ça défensivement. Offensivement, je devais faire tel déplacement pour permettre à mes coéquipiers d'aller mieux. Voilà, je pouvais pas, si tu veux, ce que j'ai connu après dans d'autres clubs, partir. On développe le jeu, si tu veux, complètement désolé, me retrouver de l'autre côté. Mais là, il devenait complètement fou, Pascal Théo. Tu vois? Donc, t'es un petit peu prisonnier, mine de rien, mais ça t'apporte quand même des bases et de la confiance dans ce rôle-là. Et donc, c'était essentiel. Moi, à Caen, la formation, ça a été nickel. Et puis après, moi, en plus de ça, j'ai eu la chance de retrouver Pascal Théo après à la tête de l'équipe professionnelle. Ouais. Donc, forcément, on était dans la continuité.
Même expérience ou pas, toi, Philou?
Oui, je rejoins Jérôme.
À Montpellier,
j'étais au centre de formation de Montpellier. J'étais formé à Montpellier avec Monsieur Dinalo et Maman Ouattara, paix à son âme. Et il y avait Jacques Bonnet, directeur du centre de formation, et que je salue. Et pareil, c'est vrai qu'on avait un projet de jeu qui était calé du centre de formation jusqu'au pro, pour qu'on puisse, quand on intègre l'équipe première, avoir à peu près le projet de jeu de l'équipe première. Et c'est vrai que ça manque, moi, à mes yeux, ça manque un petit peu de liberté pour les jeunes. Moi, je pense que, et c'est ce que je pense avoir un petit peu vu sur le livre, c'est que laisser un peu de liberté, c'est ce qui manque un peu dans la formation à la française, c'est laisser un peu de liberté aux jeunes, laisser leur jouer, laisser leur développer leur talent. Parce que des fois, il y a un gamin, comme on a dit, il y a un milieu gauche qui va peut-être dézoner, qui a un talent, qui va dribbler 3-4 joueurs. Non, on va lui dire, voilà, tu rentres intérieur, tu fermes, quand tu es milieu droite et au bout, toi tu es à gauche, tu rentres, tu fermes dans l'axe, tu ici, tu ça. Et ça, malheureusement, voilà, c'est un peu, pas à dire formaté, mais c'est la formation à la française. Ça manque un petit peu de on laisse jouer, un peu chacun comme il veut, surtout quand on est jeune. Mais voilà, après, ça peut être une force également aussi, parce qu'on apprend les bases, on apprend aussi beaucoup de choses que ça nous sert énormément quand on arrive en
pro. Puis vous aurez le temps de dézoner après. Hein.
Non, mais
t'as
pas
le temps.
Que ça. Non, puis après, voilà.
C'est pas que ça.
Thierry va pas me contredire là-dessus. Je crois que t'as des joueurs, t'es obligé aussi de leur apporter ce côté-là, tu vois, un peu plus strict dans le jeu, parce que, on parlait des exemples en équipe de France. C'est simple. Quand t'as Mbappé, même si tu veux le bloquer dans un schéma, je peux te dire, ça va être difficile de bloquer parce qu'il est talentueux. Mais un Mbappé, t'en as qu'un. un Dembélé qui est capable de prendre le ballon, d'éliminer 3-4 joueurs, comme on le voit encore hier avec Barcelone, t'en as qu'un aussi. Ce que je veux dire, tous les joueurs sont pas comme ça. T'as des joueurs qui ont plus besoin de ce côté collectif, d'être assuré, d'être peut-être un peu plus formaté, du moins mis dans une case. Je te prends l'exemple de Thomas Lemar. Même s'il a de la liberté dans le jeu. Mais Thomas, je pense qu'il a besoin, plus que les autres, par exemple de Dembélé ou Mbappé, du collectif, d'être dans ce collectif. Mmh. Et ça, c'est quand même une force quand tu as des formateurs qui peuvent t'apporter ça. Voilà.
Il y a des joueurs qui ont besoin des relations avec les autres pour exister. Ils sont très performants là-dedans. Tout seul, c'est difficile, mais à partir du moment où ils s'inscrivent dans les mouvements collectifs, ils sont très performants.
Et cette formation à la française que décrivait toi, Philou, et même Jérôme, est-ce qu'on emprisonne un peu trop nos joueurs, nos jeunes joueurs aujourd'hui ?
Alors, faut pas faire de généralité, hein, parce que tous les centres de formation ne fonctionnent pas pareil.
Oui, on va en parler.
On dit formation à la française, mais elle est pas une, en fait.
Ouais. Elle est multiple, bien sûr.
Mais il y a des âges où je... effectivement, je pense qu'il y a un petit peu trop de restrictions aux joueurs, et notamment être capable de leur faire découvrir des nouvelles zones dans le terrain, des nouveaux espaces dans lesquels évoluer, pour leur développement et pour leur bagage général, c'est quelque chose d'important, parce que si on les spécifie trop vite, trop tôt, et ben on en fait des joueurs unifonction, quoi. Alors que plus ils ont une palette large, plus ils deviennent imprévisibles, plus ils peuvent perturber l'adversaire, parce qu'ils peuvent rentrer, ils peuvent déborder, et ils peuvent jouer plus haut, plus bas. Donc faut cultiver cette multitâche, en fait.
Thierry Guillou, football et formation, une certaine idée du jeu, c'est aux éditions L'Harmattan. C'est vrai que ça avait fait polémique il y a quelques années, où on parlait, il y avait une spécificité du recrutement, en tout cas la formation, on formait les joueurs d'une certaine manière, et par exemple les petits, un petit peu à la Lionel Messi, vifs, voilà, ça intéressait pas forcément les formateurs. Est-ce que ça c'est toujours d'actualité, ou est-ce que les mentalités ont quand même changé?
Alors ça évolue. Il y a quand même encore toujours une prédominance des qualités athlétiques, et ça se traduit notamment, j'en fais écho dans le livre, par rapport aux dates de naissance. C'est quelque chose qui est assez simple à visualiser. On remarque très vite que 60% des joueurs dans les centres de formation sont nés dans le premier trimestre de l'année. Ça ne veut pas dire que les joueurs nés en janvier, février, mars sont meilleurs, mais par contre à Saint-Anna ils sont plus performants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont un petit peu plus développés que des joueurs nés en fin d'année.
Ben oui, ils sont plus vieux.
Voilà. Donc automatiquement ils ont une place plus importante qu'ils leur ont accordée dans les centres de formation, parce que là encore on est dans une démarche de résultat. Voilà. Pourquoi on est dans une démarche de résultat ? Parce que l'éducateur aussi essaye d'exister, et s'il y a des résultats, son contrat sera plus facilement renouvelé, etc. Donc il a un peu plus facilement recours à ce genre de joueur. Et donc il y a un résultat immédiat, on performe immédiatement, mais c'est des joueurs qui disparaissent, arrivés à 19, 20, 21 ans, quand les équilibres morphologiques se sont rétablis, avec des joueurs avec une maturité plus tardive.
Mince, ma fille est née le 26 décembre, je pense que...
T'es née quand toi?
C'est un peu le 8 juin.
Ah ouais, tu vois.
C'est un peu le football.
Les grands joueurs, c'est janvier, février, mars, hein, 31 mars. Le dernier jour.
Ah ouais.
Il fallait pas après.
Contre-exemple, 22 mars.
Non mais toi tu vas pas jouer au football.
Si,
on s'en fout.
Au football.
T'as fait des études et très bien. C'est
oui,
bien.
Mais heureusement, j'ai aussi joué au football.
T'as développé ton cerveau d'une autre façon.
Justement, en parlant de ça, est-ce que pas de mon cerveau, hein, mais est-ce que la formation, elle est marquée surtout par l'obligation de résultat aujourd'hui, et moins, en tout cas c'est ce que l'on comprend dans le livre, et moins par cette identité de jeu et cette
idée. C'est ce qu'il vient de te dire. Tu t'écoutes pas en fait ce qu'il te raconte. Attends, je vais répondre à sa place.
Je sais.
Il vient déjà de l'expliquer. Il t'a dit que forcément il y a des obligations de résultat, parce que les obligations de résultat, ça fait que ton contrat il va être renouvelé plus facilement si t'as des résultats. Si t'as pas de résultats, si que tu penses juste à développer tes joueurs, à les amener à maturité peut-être dans 2 ou 3 ans, mais à défaut d'avoir des résultats sur une année, bah tu risques peut-être au bout d'un moment de te dire bah les dirigeants vont te dire bah écoute bah,
c'est
comme, gentil
c'est comme un peu mais on t'a c'est comme un peu une équipe première Jérôme ou quand
un et ça c'est triste
les, quand l'entraîneur n'a pas les résultats malheureusement
ouais mais voilà. Attends en équipe première c'est différent parce que différent. Équipe première voilà il y a une entreprise qui doit fonctionner elle
oui,
fonctionne
mais tu
comme
sais,
moi ça
mais
me fait
comme non, il mais... a dit Thierry comme il a très bien dit Thierry maintenant c'est vrai qu'il y a certains éducateurs s'ils n'ont pas de résultats aussi. Oui. Ça va très vite d'un côté comme d'un autre.
Non mais ça,
c'est que ça va très vite. Il n'y a pas des résultats malgré tout leur leur travail,
oui, oui,
malgré
oui.
Non, mais tout ça leur bon. Est... S'ils n'ont pas des résultats,
on est d'accord.
À la porte. Hein.
On est d'accord. Non
et
mais
ça,
je,
et ça j'en vois beaucoup ça des faut, formateurs faut, à la porte à par rapport aux résultats.
Il faut bien séparer le monde pro et,
ah oui, ça,
et les jeunes. Les jeunes, les jeunes pour moi. Alors après, je suis pas président de club encore une fois, donc j'ai peut-être le bon rôle aujourd'hui, mais je trouve ça triste qu'on mette à fond, du moins qu'on pense d'abord aux résultats plutôt qu'à développer un centre de formation et amener des joueurs à maturité, comme tu dis, à 19, 20 ans, pour que ces joueurs-là, peut-être qu'ils feront pas de différence à 18 ans dans leur championnat en U19 par exemple. Et qui feront des différences à 21 ans au niveau professionnel et qui feront gagner l'équipe au niveau pro, c'est quand même plus important pour une équipe professionnelle, pour un club professionnel, de gagner en Ligue 2, en Ligue 1, voire en National, plutôt que de gagner des matchs en U19 et d'être champion U19 et que tu es relégué en Ligue 1.
Et la question est pour tout le monde, est-ce que vous avez senti à un moment donné des présidents de club qui ne s'intéressaient pas forcément à la formation? Est-ce que en France, il y a des présidents de clubs qui
Non, je pense que la France du football est orientée dans une voie de la formation parce que c'est ce qui l'a fait exister. Donc je pense que tous les présidents de clubs sont motivés à l'idée d'avoir un centre de formation performant qui alimente l'équipe première. Le livre il dit que ça pourrait être encore mieux, c'est-à-dire que il faudrait que la formation et le jeu fasse partie d'une politique de club et que et que ça soit un principe général au club et qui permette au club dans le long terme et donc à l'équipe professionnelle de performer. Voilà. Ils sont tous, je pense que tous les clubs sont orientés vers la formation en France en tout cas, c'est quelque chose.
Et on le voit qu'il y a beaucoup de clubs qui investissent dans la formation.
Complètement.
Et le meilleur exemple et pour moi c'est l'un des clubs qui est pour moi voilà, c'est l'exemple type, c'est l'Olympique Lyonnais. Avec leur formation, ils arrivent toujours à sortir 1, 2, 3 joueurs, 2, 3 talents, toujours à revendre. Et sur ça, un grand coup de chapeau à l'Olympique Lyonnais.
Donc les clubs en ont conscience. Ok, on a bien compris, mais ils le font pas de la bonne manière.
Ils le font pas de la même manière. Et en fait, ce processus, il est parasité par de nombreuses choses. Il est parasité par, on l'a dit, l'ultra-compétition. Il est parasité par, des fois, les enjeux financiers chez les très jeunes joueurs. Il est parasité par le carriérisme de certains éducateurs. Il est pas. Et en fait, voilà, tout le monde a la même idée, mais il y a de multiples parasites qui viennent mettre un petit peu de grain de sable dans les rouages.
Est-ce que quand on est un grand club français, alors je ne parle pas des clubs qui jouent la moitié de tableau, mais par exemple comme le Paris Saint-Germain, est-ce que quand on est le Paris Saint-Germain, on peut et on a le temps vraiment de s'intéresser à la formation?
Ce qu'on voit en tout cas dans les médias, c'est ça a été érigé au niveau de priorité par le club, et je pense que ils ont essayé de mettre des choses en place pour y parvenir. Après, je vois ça de loin. Hein. Moi, je suis en Bretagne, mais contexte parisien semble assez compliqué au niveau des jeunes. Je pense que tout ce que je viens de dire est encore plus exacerbé sur la région parisienne.
Mais après, le PSG, ils ont toujours eu un centre de formation qui tournait.
Ça. Rabiot, Kipembe,
exactement. Et puis il y en a eu avant. Il y a eu Anelka avant. Puis je peux t'en passer d'autres. Il y en a plein. Il y en a beaucoup et beaucoup qui ont fini en Ligue 1, qui ont fini en Ligue 2. Parce que bon, là, on parle pas que des joueurs. Il faut pas que parler des joueurs qui ont fini en équipe de France ou dans les grands clubs. Il y a aussi des joueurs qui ont été formés, qui jouent en Ligue 2, en National, et il y en a beaucoup qui sortent du Paris Saint-Germain. Le problème du Paris Saint-Germain, c'est pas la formation, de savoir si elle est bonne, si elle est pas bonne ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont des gens compétents et ils investissent, ils ont beaucoup investi dans cette formation ces dernières années encore plus. Mais c'est à savoir si les jeunes peuvent aider l'équipe première. C'est toujours pareil. quand t'as un projet comme le Paris Saint-Germain a un projet depuis quelques années, encore plus depuis quelques années, parce que même à mon époque c'était pareil, on avait des ambitions très élevées, alors qu'on y arrivait ou pas on s'en fout, mais les ambitions étaient très élevées et c'était très difficile pour un jeune joueur du centre de formation de venir apporter un petit plus à l'équipe première. Alors que quand tu t'appelles Lorient, pour parler de Lorient, ou tu t'appelles Rennes, ou les équipes de Ligue 1, c'est peut-être plus simple, à plus simple façon de parler, d'incorporer des jeunes et de faire confiance à la formation. Ou Lyon. Mais tu sais, toi, tu parlais de Lyon. Grand coup de chapeau, Jean-Michel Aulas, ces dernières années, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il a fait cette année? Qu'est-ce qu'il a fait cette année pour rivaliser avec les meilleures équipes en France et pourquoi pas sur la scène européenne aussi? Il a investi en prenant des jeunes joueurs, mais à l'étranger.
Il, et a, pas quand que, il a quand même,
il a renouvelé.
Aouar, il a non, fait non, une très belle saison. C'est l'un des meilleurs joueurs
mais
lyonnais.
T'as toujours Aouar. Des joueurs qui vont ressortir au bout d'un moment. Bien sûr, je suis d'accord
avec
toi.
Chaque fois, il y a un joueur qui sort.
Mais sauf que là, regarde le recrutement. Il a pris beaucoup de joueurs de l'extérieur et des jeunes joueurs de l'extérieur.
Oui, mais
l'Ajax, deux joueurs, du moins qui jouaient à l'Ajax, le petit Ferland Mendy, le petit Marçal de Guingamp,
Ndombele,
les attaquants, bon,
mais
Depay, j'en parle même pas.
Mais il y a toujours un ou deux joueurs lyonnais de la formation qui répond présent
oui,
et
oui,
qui joue.
Mais parce que là,
qui fait sa saison
tout. C'est le fruit de ces dernières années. Mais là, ça a un petit peu changé parce que là, il s'est rendu compte aussi que s'il veut.
Il fallait se mettre au niveau.
Eh ben oui, si on veut revenir, il y a que Monaco qui peut se permettre de faire ça aujourd'hui. Parce que Monaco, il y a un centre de formation, ils s'en servent. Mais qu'est-ce qu'ils font, Monaco? Ils investissent très cher aussi sur des très bons,
ah oui,
bons jeunes à l'étranger.
Exactement.
Et donc, c'est sûr
qu'ils
ça
achètent très cher, mais qu'ils revendent ultra cher.
Oui, oui, mais c'est leur politique.
Exactement.
Mais après, c'est pas forcément vraiment le fruit de la formation. Ce que je veux dire, c'est prendre... Bien sûr qu'il y a un bon centre de formation, attention, c'est pas ce que je veux dire, il y a des bons formateurs. Mais ça travaille différemment qu'à Lorient, que dans des clubs qui ont moins de moyens et qui mettent en place une vraie stratégie pour que les jeunes arrivent
après,
à éclore au niveau.
J'ai un exemple de vraiment d'une équipe, après c'est la Ligue 2, c'est pas en Ligue 1, une équipe comme le Nîmes Olympique, Bernard Blacquart,
ah,
pour moi c'est l'un des noms. C'est l'un
placé.
Des Bernard Blacquart pour moi c'est l'un des meilleurs formateurs.
Quand sûr.
On voit quand
ils sont en Ligue 1 maintenant,
mais,
on parle
voilà,
de Ligue 2.
Mais quand on voit quand même qu'il y a 6 à 7 joueurs formés au club titulaire qui est titulaire de l'équipe qui est monté en Ligue 1. Et l'année prochaine, peut-être en Ligue 1, il y aura 6 ou 7 joueurs formés au club qui joueront en Ligue 1. Et pour moi, ça, j'appelle de la formation. Et Bernard Blacquart, c'est un formateur. Et on peut pas me dire le contraire.
Thierry Guillou, si on doit retenir une chose, en tout cas, si les entraîneurs, formateurs, ceux qui aiment le foot doivent retenir une chose de votre livre, vous avez envie que ce soit quoi?
Que faut pas sacrifier les exigences esthétiques qu'on peut mettre dans le jeu, et tous les entraîneurs qui sont mentionnés dans le livre ont jamais fait ce sacrifice, sont allés au bout de leurs idées, et bien souvent, en allant au bout de leurs idées, ont connu le succès.
Football et formation, une certaine idée du jeu aux éditions L'Harmattan, Thierry Guillou. Merci beaucoup d'être
merci,
venu
Thierry.
Nous voir dans l'After. Nous, on se retrouve.
Aussi.
Merci beaucoup. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour l'After Story. Et nous allons vous parler d'une finale de Coupe de France 2006 avec deux protagonistes. Ça tombe bien? Ils sont là. Ah, c'est peut-être fait exprès. Ah. Jérôme Rotten et toi, Philou Molida, le Paris Saint-Germain face à Marseille. À tout de suite sur RMC.
RMC, le super football show. L'Afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
Eh oui, l'Afterfoot jusqu'à minuit sur RMC Sport, sur BFM Sport et sur notre site rmcsport.fr avec Jérôme Rotten, avec toi Philou Maoulida. L'heure est intense, l'heure est immense. Nous allons parler de l'After Story. Nous vous parlons des plus belles finales du monde, de la galaxie peut-être. Et nous allons revenir en 2006. Nous sommes le 29 avril 2006. Non, pas du tout. Nous sommes le 29 avril 2006. C'est la première fois que le Paris Saint-Germain et l'OM se rencontrent en finale de coupe. La seconde, ce sera en 2016, toujours en Coupe de France avec une victoire parisienne. Vous le savez, 4-2. Ce que la France attend, c'est l'opposition entre les deux joueurs français les plus talentueux du moment, Jérôme Rotten et toi, Philou Maoulida. Évidemment, vous êtes tous les deux titulaires, messieurs. Bravo. Hein. Pour en arriver jusqu'au Stade de France, le PSG a cravaché. Hein. L'élimination de l'US Vermel, club de DH, puis Auxerre, l'Ogre Lyon-la-Duchère, club de CFA, Lille et Nantes. Bravo, Jérôme.
Bah, excuse-moi, mais...
Ils ont reçu à tous les matchs.
Non.
Voilà, Vermel, vous êtes partis.
C'est non, tout. Non, mais Lille et Nantes, on était à l'extérieur.
Marseille a sorti Le Havre avec un but de Maoulida, puis Metz, puis Sochaux avec un doublé de Maolida, puis Lyon, but de Maolida, et enfin le Stade Rennais sans but de Maolida. Bravo toi Filou. En championnat, Lyon domine toujours, Marseille est 5e, le Paris Saint-Germain 8e, et c'est Nancy qui a remporté quelques jours plus tôt la Coupe de la Ligue, donc le PSG et l'OM cette saison, c'est la Coupe de France sinon rien. Il y a une forte tension avant la rencontre, notamment parce que l'OM avait décidé d'envoyer les Minots au Parc des Princes en championnat. Le match, sur le papier, l'OM fait un peu plus rêver. Barthez dans les buts, Lamouchi, Sana, Ribéry, Pagis, Niang et évidemment Maolida. Tu es d'accord ?
C'est ça.
Côté parisien, il y a quand même Roten, hein, il y a quand même Dorasso, Bonaventure Kalou et Paoletta. C'est pas mal.
Bah ouais. Tu peux... Yepes ?
Oui.
Voilà. Je sais pas, c'est quand même un joueur qui a été important.
Que tu avais oublié.
Dans les buts, c'est qui ? Letizy ?
Ouais, exactement. Bah, on voit justement la composition d'équipe. Si vous regardez BFM Sport, Letizy, Yepes, Rosenal, Bernard Mendy,
Sylvain Armand,
Mbami, Edouard Cissé.
Letizy international, Rosenal international, Yepes international, Bernard Mendy international, Dorasso international, Kalou international, Roten forcément international et Paoletta international. Donc à part trois joueurs, tous les joueurs sont des internationaux. Donc tu vas respecter un petit peu l'équipe de 2006 s'il te plaît, parce que monte-moi l'équipe de Marseille et on fait le bilan.
L'équipe de Marseille est-elle mieux que celle du Paris Saint-Germain cette année-là en 2006 avec Fabien Barthez, Renato Civelli, Frédéric Dehu, Habib Bey, Teiteiwo,
franchement je préfère la mienne. Hein.
Sana, Ribéry, Lamouchi, Maolida, Niang, Pagis.
Non, mais tu plaisantes quand même. Non, mais franchement, t'as osé me dire que cette équipe, elle te faisait plus rêver que la nôtre.
J'ai pas dit qu'elle me faisait plus rêver. En plus, je sais que
Vas-y. Alors, on s'en fout. C'est quoi,
On avait envoyé les Minots chez vous au Parc des Princes. Ils ont fait 0-0. C'est l'équipe des 17 ans, les CFA2.
On s'en fout des Minots. Oui. Mais là, je te parle de la finale.
En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec ce magnifique effectif, le Paris Saint-Germain est 8e, alors que l'OM est 5e. 80 000 spectateurs. Ouais.
Oui, pas que de notre faute.
Oui, c'est vrai. 80 000 spectateurs, ça doit être le match l'US Vermel qui a dû tirer un peu dans les pattes.
Non, les arbitres, ils nous en voulaient cette année.
Bien sûr. C'est pas grave. 80 000 spectateurs, belle ambiance. Le président Jacques Chirac serre la paluche de tous les joueurs avec ce petit mot à chaque fois, tous mes voeux, même si on est fin avril. Très bon début de rencontre pour le Paris Saint-Germain qui ouvre le score par Kalou à la 6e minute.
Attention tout de même à ce ballon perdu, la frappe à l'ébou, ouverture du score extraordinaire de Bonaventure Kalou.
On voit pas les images parce que Sayou, je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire sur l'action, il s'enflamme.
Tu peux laisser, s'il te plaît, le commentateur s'enflammer.
Toi Filou, Maolida, ne laisse pas parler Christian Jean-Pierre.
Mais attends, sans déconner,
ça me reste à travers là, le Sayou là, qui fait accrocher tout le public l'enflamme et ça y est.
Alors ne déflorons pas le but du Paris Saint-Germain, toi Filou, sinon Jérôme va parler sur le but de l'Olympique de Marseille et on ne va pas s'en sortir. En tout cas, Maolida qui voit que le match échappe à l'OM tente de berner l'arbitre Laurent Duhamel.
Appel de Maolida, toi Filou, Maolida dans la surface qui s'écroule.
Mais t'as vu Jean-Michel, c'est Jean-Michel Larquet, hein,
qui exactement. Avant la suite, Jean-Michel Larquet, c'est vrai. Respect
absolument,
à Jean-Michel
Larquet. Mais quel tricheur.
Respect
même
à Jean-Michel Larquet.
Tu es tombé comme, oh là.
Alors nous non plus, hein, rassurez-vous, hein, sur BFM Sport, on n'a pas les images, on a juste le son, mais on sent la simulation venir de loin.
C'est sûr.
Filou,
puis je peux te dire que, ayant été son coéquipier quelques années après, je peux te dire que c'est une simulation.
22e minute, Jérôme Roten déborde. Enfin.
On l'a pas beaucoup vu, Jérôme Roten, mais cette première accélération, il est en forme.
Ah, voilà. Eh ouais, là,
au bout de combien, il a dit, au
là,
bout de combien
début. Alors, l'histoire de ce match, c'est que c'est véridique, pendant 7 minutes, on marque, je n'ai pas touché le ballon. 7 minutes sans toucher le ballon. Je suis le dépositaire du jeu du Paris Saint-Germain.
Bien sûr.
J'ai pas touché le ballon 7 minutes. Je commençais à péter un câble, j'allais voir tous les joueurs, j'ai dit oh, je suis là. Armand, je l'ai secoué et tout. Bon, après ça s'est bien passé.
Comment tu l'expliques ?
Comment je l'explique ? Franchement, le jeu il se déroulait côté droit, que côté droit, etc. Parce que là, c'est blague à part.
Ouais, forcément, il y avait Vicage Dorasso de l'autre côté.
On développait beaucoup de jeux sur le côté gauche d'habitude, et là, tout côté droit. Le but vient d'une erreur de Taiwo côté droit, donc côté gauche de la défense marseillaise. Et derrière, voilà, on mène 1-0 et tout. 7 minutes avant de toucher. Je me souviens encore voir l'horloge. J'ai putain 7 minutes, je touche mon premier ballon. Après, Bibé, il n'a pas vu beaucoup des ballons.
Oui, alors rassure-toi, on a tes stats sur ce match. Ouais, ouais. On va te les passer dans quelques instants.
T'en fais pas.
Alors après le but, on jugera.
Non, mais elles sont très bonnes et surtout la note après dans l'équipe le lendemain parce que
combien?
7,5.
7,5. Ah oui, il y avait encore les demi à l'époque.
Ouais, 7,5, meilleure note du match avec Dorasso.
Journaliste de l'équipe, c'était sans pote aussi.
Non,
normal.
Non,
hein.
Non.
Jérôme, tu ne l'as fait pas.
Moi, je me souviens de ta note. Mais t'avais une bonne note, hein. T'as eu 5. C'est bien, déjà.
Pas moi, Jérôme.
Mais c'est bien.
On les retrouve, les notes.
Mais c'est bien, t'as eu 5.
Parce que c'était pas mon pote.
Mais non. Alors,
non,
c'est le Marseillais qui n'a
aucun intérêt. Après le but encaissé, rapidement, c'est vrai, les ennuis continuent pour l'Olympique de Marseille. Pagis se blesse, remplacé par Ourma, un milieu de terrain. Choix tactique qui ne va pas du tout s'avérer payant. Mi-temps 1-0 pour le Paris Saint-Germain qui vient au micro TF1. Toi, Filou Maoulida.
Il faut tout donner, il faut rien lâcher. C'est vrai qu'après un mi-temps, on les a dominés de la tête et des épaules. Malheureusement, il a manqué la réussite. On n'a pas marqué, mais je pense qu'il faut tout donner dès le premier quart d'heure de deuxième mi-temps pour essayer d'égaliser et après faire le break. Le plus important, c'est l'égalisation et quelle est l'application.
Toi, Filou, vous avez vraiment dominé cette première période.
Non, attends, t'as vu, et d'arracher la qualification.
Oui, mais non, exactement.
T'étais vraiment plus lucide, déjà. T'avais tellement couru dans le vide, après le ballon, tu te rends compte ce que tu dis. On joue une finale, tu dis, ouais, le plus important, c'est la qualification.
Tu voulais te qualifier pourquoi?
Non, j'étais dans mon match, et voilà, quand on est dans le match, j'étais ailleurs. Mais tu sais pourquoi?
Zidane, aujourd'hui, après un match amical, l'important,
c'est tu sais pourquoi, Jacques-Christophe, tu sais pourquoi? Parce que si, il y avait les images sur la faute de Pagis. Mendy, il explose à Pagis. Mendy, il explose. Il siffle même pas penalty, l'arbitre. Il explose à Pagis.
On n'attaque pas Mendy, c'est un copain.
Ouais, déjà, c'est un copain, Bernard. Et puis, franchement.
Mais pourquoi il n'y a pas les images? Pourquoi il explose à Pagis?
Il est sorti, Pagis.
Ah oui? Parce qu'il explose le genou.
Les nerfs à vivre dans l'after. On sent que ce match a marqué Jérôme Rotten. Ce match a marqué toi, Filou Maoulida. Jérôme Rotten, qui a dû entendre l'interview, d'ailleurs, de toi, Filou Maoulida, s'empare du micro à son tour.
Continuer sur comme ça, on a un but d'avance. Maintenant, on va tout faire pour garder ce but. Essayer d'en mettre un deuxième. Défendre de la même façon et jouer le plus possible quand on a le ballon. Comme on l'a fait en première mi-temps, c'est créer des bonnes occasions. On n'a rien eu. Donc, à nous de continuer pour aller la soulever.
À nous de continuer pour la soulever. Là,
pour aller la soulever.
De qualification.
T'as vu la lucidité, la différence quand même. Toi, t'es à fond là. T'es à bord. Moi, je parle déjà de la soulever parce que
voilà. j'ai tout donné sur la première mi-temps. J'ai rien lâché.
Non, mais c'est bien. Non, mais ça, on peut pas te reprocher.
Et quelque part, Jérôme, tu as raison parce que 49e minute, on sort juste des vestiaires. Dorasso sort une frappe qu'il n'aurait même pas tenté, je pense, à l'entraînement.
Merci, Jacques.
Dorasso dans le rond central. Accélération, dégage Dorasso. À droite, Paul Etaki. C'est parti, Dorasso va frapper, la frappe de Dorasso. Incroyable but de Dikash Dorasso. C'est incroyable, Dikash Dorasso qui la frappe de l'extérieur de la surface de réparation, Jean-Michel.
25 mètres.
Ce qu'il ne fait jamais.
Incroyable, cette frappe.
Il n'a jamais mis un but de sa vie hors de la surface de 30 mètres. Il va le mettre ce jour-là.
Mais tu vas respecter Vikash, non?
Mais allez, dis-moi s'il a mis un but au-delà de 30 mètres.
L'essentiel, c'est qu'il l'a mis le 29 avril 2006.
Tout le respect que j'ai pour Vikash. Mais c'est un joueur que je respecte beaucoup. Mais est-ce qu'il a mis un but déjà au-delà de 30 mètres?
Mauvaise défense, Barthez aux fraises. Hop, 2-0.
Ça fait donc 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Dorasso, d'ailleurs, porté en triomphe par tous ses coéquipiers. Il en perd même son tête. L'OM n'abdique pas. 67e minute, c'est la réduction d'écart.
Allez, un bon ballon peut-être. Maoulida, une balle de 2-1. C'est fait. Le but marseillais.
Bravo.
L'explosion de joie de tout le virage nord du Stade de France.
Ouais, bah, range la vite, la bandelette, parce que il y a 2-1.
La bandelette
pour l'île Mayotte.
Pour mon île Mayotte, qu'est-ce que c'est sympa.
Eh oui.
Eh oui, la célèbre bandelette. Pour mon île Mayotte, donc c'était la bandelette du jour sur cette rencontre.
Et même ça, on t'a laissé marqué pour que tu sortes la bandelette pour l'île Mayotte. Ouais. Parce qu'on savait que c'était, tu l'as montré.
J'ai marqué
à tout le monde.
Au moins, Jérôme.
Oui, non mais, c'est là-dessus. Bah, c'est ton rôle.
Ben oui.
Le match est relancé, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Guy Lacombe, est en colère. Bon, il n'est pas en colère comme ça, mais on imagine qu'il était en colère comme ça.
Il a perdu un bout de moustache sur la...
Mais oui, le Paris ne lui dit pas moustache gracias. Ouais. Mais Paris tient bon jusqu'au bout et c'est peut-être aussi grâce au coaching gagnant de Lacombe.
Sortie de Jérôme Rotten. Excellent, Paolo César.
Écoute, non, excellent dans ce match, remplacé par Paolo César. Excellent dans ce match. C'est pas moi qui le dis.
On va réécouter justement la sortie de Jérôme Rotten.
Sortie de Jérôme Rotten.
et la rentrée d'un Brésilien excellent, Paulo César.
Voilà. Ah, excellent. Voilà. Excellent César. Dans ce match.
Paulo César.
Et l'entrée de Paulo César.
Excellent. Voilà. Voilà. Excellent. Paulo César.
Non.
Pas Jérôme Rotter.
C'est ma prestation qui était excellente. Sorti à 3 minutes de la fin pour gagner du temps quand même.
Mais écoutez l'excuse bidon de Jérôme Rotter.
Il reste pas longtemps, maintenant à nous de tenir, il faut faire tous ses efforts. C'est pour ça que j'ai fallu que je laisse ma place parce que j'avais des crampes. Donc voilà, maintenant il reste quelques temps. Pour l'instant je dis rien.
Voilà, et tu vois,
il y avait vraiment des crampes. Hein.
Mais bien sûr, bah, il y a les crampes, il y a l'ovation. Je vois encore tout le stade, la moitié du stade, parce que de l'autre côté, il n'y avait plus de bruit. Hein, ils dormaient hein, déjà, les Marseillais. Et ils étaient. Et là, je voyais déjà la banderole s'afficher droit. L'OM droit
c'est
au
mytho.
But.
C'est
pas
c'est,
droit au but, c'est... droit au but. C'est la plus belle. C'est là, je l'ai en fond d'écran, si tu veux. Bah, c'est là.
2-1, score final pour le Paris Saint-Germain. Et là, Rotten, prend le micro du Stade de France et Anton, qui ne saute pas, est Marseillais. Le PSG remporte
sa
7e Coupe de France. Et non, on l'a pas.
Ah, c'est dommage.
Ah ben, oui,
là,
oui,
je
oui.
Le vois encore. Qui ne saute pas est Marseillais? Qui ne saute pas est Marseillais?
Yannick, supporter de l'OM. Et justement, avec nous. Salut Yannick. Yannick, il était au stade de France en 2006. Salut Yannick, ça te rappelle de bons souvenirs, non?
Il se calme un peu, Rotten, parce qu'il m'a déjà gavé, là.
Ah, merci, merci Yannick, merci.
Ouais, c'est un mauvais souvenir pour moi, et d'ailleurs, vous étiez passé complètement à travers ce match.
C'est clair.
Parce que je me rappelle, on était monté tous en train, on avait déjà gagné, on l'a ramené déjà sur le Vieux-Port cette année-là. Paris, ils étaient pas exceptionnels, nous, on n'était pas trop mal. Et avec l'équipe qu'on avait, on pensait vraiment la ramener. Et puis vous êtes passé complètement à travers. Vous nous avez fait honte. Et je me rappelle, on avait même les t-shirts avec des trucs de sueur olé olé contre Paris. Et puis on est redescendu la queue à travers les jambes, quoi.
Non, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai qu'on a complètement déjoué cette finale. En plus, on était avant, comme quoi dans le football, c'est pas toujours le favori qui gagne. Donc voilà, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. On a complètement déjoué.
En plus, dix jours avant,
on amène Nomino, la CFA, faire match nul au Parc. Tout le monde s'est dit, l'OM avec l'équipe type allait gagner. Et au final, on a perdu. Donc voilà.
Je pense que les Minos auraient été meilleurs que vous.
Peut-être.
Oui, Yannick, un dernier mot.
Ouais, par contre, quand on voit l'équipe de Paris, on voit qu'il n'y avait pas le Qatar quand même.
Ouais. Non mais c'est vrai, t'as raison. Bah, de toute façon, de l'autre côté,
c'est plus équilibré, quoi.
Ouais, c'est équilibré. On l'a vu sur la finale. Hein. On gagne 2-1, logiquement.
Ouais, il marque un but. Après, il a fait une vidéo, il a fait un film. C'est tout ce qu'il a fait dans sa vie.
Ah non, t'es sévère là, quoi.
Ouais.
Mais la prochaine fois, prenez aussi la victoire au Parc des Princes 3-1, parce que ça fait.
Ouais, voilà,
on est les derniers à gagner au Parc des Princes 3-1.
Était aussi,
but de Pagis, but de Nasri et but de Denis.
Mais c'était en noir et blanc.
Noir et blanc demande. Tu avais pas les têtes. Tu étais sur le terrain.
Je crois qu'on a plus les cassettes de tout ça.
Non, on a plus les cassettes.
Tu étais Jérôme.
Nous, c'est que les matchs qui comptent. Les matchs qui comptent, c'est les finales de coupe.
Ah, c'est clair.
Non, donc,
mais bravo pour votre victoire.
Mais
moi,
franchement,
je le dis.
Mais attendez, c'était il y a 12 ans.
Et vous êtes encore chaud comme la
merde. Non, pas du tout. Blague à part. En plus, il y avait, franchement, là, c'est pas chambré.
Ouais, j'ai bravo.
J'en ai fait des matchs au Stade de France, hein, que ça soit pour les finales ou avec la sélection. C'est le seul match où quand t'étais sur la pelouse, il y avait une ambiance incroyable.
Ah oui, c'était le premier Marseille.
D'un côté de l'autre. Bah, c'était la guerre entre Paris et Marseille, le COP parisien, le COP marseillais. Donc, c'était à qui allait faire le plus de bruit pour faire taire l'autre. Et franchement, au milieu du terrain, il y avait une ambiance incroyable. C'était fantastique.
Et une ambiance qui a peut-être perturbé.
Et c'est dommage que les Marseillais soient pas restés jusqu'à la remise de la coupe, parce que
là, il y avait une belle ambiance.
Jusqu'au bout, on aurait aimé, tu vois. Bon, il faut être bon perdant par moment. Merci toi, Philo. T'as été bon.
Merci Jérôme.
Jérôme Thomas d'avoir mis la victoire parisienne.
Juste pour clore sur ce débat et cette finale de la Coupe de France 2006, une ambiance qui a peut-être perturbé un petit peu Jérôme Rotten. Pas habitué aux grosses ambiances.
Mais
on va regarder justement les stats de sa finale. Jérôme Rotten qui a eu 7,5 donc visiblement dans le journal.
Mais qu'est-ce que c'est des conneries.
19 ballons perdus.
Ouais,
Jérôme, zéro faute.
Bah, zéro faute, ouais.
Jérôme.
Mais tu te rends compte.
Franchement,
Jérôme Thomas, il s'amuse bien quand même. Hein. Réalisateur a inventé des... Non mais franchement...
Ce sont les stats de TF1.
C'est vrai?
Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, l'autre, il dit en plus. Non, mais tu te rends compte.
Allez, on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup et merci à Jérôme Thomas d'avoir préparé cette after story autour de la finale de la Coupe de France 2006 avec Paul Vecchio. Merci beaucoup, les gars. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite de l'after et nous allons jouer avec vous, auditeurs. Rappelez le 32-16. Il y a plein de choses à gagner, dont un film avec Bruce Willis. Enfin, vous n'allez pas gagner le film, vous allez gagner deux places pour aller le voir.
Génial.
À tout de suite sur RMC.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
23h51, c'est l'heure du quiz dans l'afterfoot avec Jérôme Roten, avec toi Philou Maolida et avec deux auditeurs, Arthur, supporter du Stade Rennais, et Benjamin, supporter d'Amiens. Salut les gars.
Salut
les gars.
Alors, pour choisir votre équipe, on va faire quelque chose de très original. Vous écoutez tous les deux à la radio?
Oui. Bah, bien sûr.
Ok, c'est parfait. Arthur, combien j'ai de doigts?
3.
Non, j'en ai deux. C'est donc Benjamin qui va décider dans quelle équipe
Stade
tu veux
va me choisir.
Est-ce que tu vas être avec toi, Philou, ou
Stade
avec Jérôme?
Va me choisir.
Je vais choisir Jérôme.
Non, mais c'est pas le Stade Rennais, là. C'est Amiens.
Arthur a choisi.
Ça tombait bien.
Mais c'est Amiens. Jérôme. Moi, c'est le Stade Rennais, moi. J'ai joué au Stade Rennais.
Toi, Philou, la bande.
Eh oui, Jean-Christophe.
Alors, Benjamin a choisi Jérôme, pardonne-moi, et Arthur a bien choisi toi, Philou. Alors, nous allons jouer, messieurs. Sachez, Arthur et Benjamin, qu'il y a de l'eau très important à gagner. Le film de la semaine, deux places pour aller voir Death Wish du pur Bruce Willis. Il y a d'ailleurs d'autres places, 14 places à gagner sur notre compte Twitter. Ou alors un t-shirt de l'after, voilà, vous devrez choisir pour celui qui l'emporte. Le thème, nous allons jouer à une liste, ok? Donc je vais passer dans les rangs, chacun à votre tour, vous allez me donner un nom. Le premier qui se trompe fait perdre son équipe, ok? En tout cas, il faut être le dernier en liste dans cette liste. Ok? T'as compris? Ok, j'espère.
Hein. On donne tous une réponse.
Voilà. Reims a remporté le championnat de la Ligue 2, c'est le thème. Chacun votre tour, vous devez me citer un club qui a été sacré au moins une fois champion de Ligue 2 sur les 30 dernières saisons, soit depuis la saison 1987-88. Évidemment,
c'est normal,
vous ne pouvez pas me citer Reims.
Bah non.
Il y en a 26 au total. Messieurs, Jérôme et toi Philou, pour savoir qui va débuter. Toi Philou, j'ai combien de doigts?
Deux.
Bravo toi Philou, tu es en face de moi. Tu vas donc débuter.
Mais tu te fous de moi quoi. Mais attends.
Bah, il a trouvé la bonne réponse.
Mais c'est...
tu vas donc commencer cette liste, c'est à toi.
Bastia,
en 2012, c'est une bonne réponse.
Il est con.
Jérôme, tu voulais le dire.
C'est moi qui lui ai offert le titre et en plus c'est lui qui le donne.
Toi Philou.
Marseille.
Jérôme. Marseille en 95, c'est une bonne réponse. C'est à Arthur.
Arthur est avec qui?
Il est avec toi, Philippe. Allez, Arthur, c'est adrené, là, allez.
Allez, Reims.
Alors moi, j'aurais dit le FC Nantes, malheureusement.
Tu dis Nantes?
J'aurais dit le FC Nantes.
Oh, ok, eh bien, le FC Nantes, ce n'est pas une bonne réponse. Il y a donc plus que toi, Philou. Il y a encore toi, Philou, dans la course. Hein. C'est à Benjamin.
Ça aide, là-bas, c'est pas bon.
Non, fais confiance, fais confiance.
Benjamin.
Nancy, quatre fois, évidemment, 90, 98, 2005 et 2016. Ça continue, toi, Philou.
Metz,
deux fois, 2007-2014. Jérôme.
Monaco,
c'est une bonne réponse. En 2013, de nouveau dans les cordes, toi Philou.
Lens,
2008. Il est bon, hein. 2009, mais c'est une bonne réponse. Benjamin.
Caen,
deux fois, en 96 et 2010, bien sûr. Toi Philou. Ah, t'es tout seul maintenant, toi Philou.
Sochaux,
deux fois, 88 et 2001, c'est bon. Jérôme.
Hey, Jérôme, il y a un laps de temps. Hein.
Quoi, il y a un laps de temps?
Deux secondes, Jérôme.
Mais quoi, deux secondes?
Oui,
quoi
facile, sinon.
Dis-moi un club.
Pourquoi, deux secondes?
Enfin, un club.
Mais franchement...
Depuis 30 ans, hein, il y en a beaucoup. Hein.
Je vais te dire...
Deux, un...
Montpellier,
c'est une mauvaise réponse.
Yes.
Attention, il n'y a plus que Benjamin dans l'équipe de Jérôme Roten.
Montpellier.
Et toi, Philou Maolida, en course. Toi, Philou.
Evian Tonon Gaillard
en 2011, c'est une machine, c'est une bonne réponse. Benjamin.
Lille.
Ouais, Lille, en 2000, c'est bon.
Mais lui, chez lui, il a l'ordi ou je sais pas quoi.
On
mais
fait non. Confiance, on fait confiance aux membres de l'after.
Vrai, en plus, hein? Lille, c'était sûr.
Mais lui, chez lui, il a l'ordi.
Lille avec Loïd.
Comment?
Toi, Philou.
Ah, mais il a l'ordi et tout.
Allez, on y
non.
va.
Arrête, Jérôme. Non, pas Jérôme, il veut dire des conneries. Arrête, Jérôme.
Allez, toi, Philou, deux secondes. Après, j'ai un autre quiz, mais on n'aura peut-être pas le temps, je crois.
Vas-y, dépêche-toi. 3.
3, bien sûr, en 2015, c'est bon, Benjamin.
Même 3. Saint-Étienne.
Saint-Étienne, deux fois, 99-2004, c'est bon. Toi, Filou.
3 secondes.
2.
Auxerre.
Auxerre, c'est pas bon, mais c'est pas terminé. Est-ce que Benjamin peut valider?
Vas-y, Benjamin.
Valenciennes,
oui, deux fois en 92 et 2006. Ouais, bon, c'est une victoire de Benjamin. Bravo.
Jérôme, il a son ordi à côté de lui.
Avec moi.
Jérôme me dit qu'on a perdu Arthur. Arthur, c'était pas terminé. Tu as peut-être raccroché, mais j'avais peut-être un autre quiz.
Vas-y, fais un autre.
Mais je vais demander à Jérôme si on a le temps de faire un autre quiz. Rapidement, allez, on fait les meilleurs buteurs. Juste avec Jérôme et toi, Filou. Benjamin, bravo, tu as gagné le film de la semaine. Bravo.
Merci.
Et un t-shirt de l'after, on t'embrasse. Merci, et tu as été très très performant. Les meilleurs buteurs de l'histoire de l'OM, ok?
De l'OM?
Oui, mais depuis 30 ans, depuis la saison 87-88.
Vas-y, allez, je commence, okay Papin.
Vas-y. Papin, c'est une bonne réponse. Il est premier, évidemment, avec 182 buts.
Ah, de meilleur buteur de la saison, c'est ça?
Meilleur buteur de l'histoire de l'OM. Non, pas de la saison.
Niang.
Les joueurs ont mis au moins 30 buts dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, ok, depuis 30 ans. Mamadou Niang, c'est une bonne réponse, il est deuxième avec 100 buts.
Cascarino,
cinquième avec 70 buts, c'est bon.
Boxic.
19e avec Boxic, c'est une bonne réponse avec 31 buts. Attention, il n'y a pas en dessous de 30 buts.
Il n'y a pas en dessous de
30 buts. Jérôme.
Qui sait que je vais te dire.
Il y en a des très connus, hein, il y en a beaucoup.
Bah ouais. Franchement,
des Marseillais depuis 30 ans. 3.
Scoblard. Scoblard,
il y a. De là, de 30
ans.
Mais alors,
est-ce que tu es capable de valider?
Mais non, mais c'est pas une question de valider. Et Scoblard, bien
depuis
sûr qu'il est.
Depuis 30 ans.
Rudy Voleur.
Sur les 30 dernières
années. Rudy Voleur, il y a.
Non, mais toi, c'est Scoblard, c'est les années.
Attends, c'est pas terminé. Toi, Filou, est-ce que tu peux valider?
Bah oui, c'est facile. Et je me suis trompé sur le truc, mais il y en a plein.
2.
Abedi Pelé.
Drogba.
Didier Drogba, je pense que c'est bon, je vérifie quand même, par acquis de conscience, 32 buts, mais oui.
Eh oui,
mais
non!
Brandao, Florian Maurice, Abedi Pelé, Dimitri Payet, Mathieu Valbuena, Marc Libra est dans la liste aussi avec 41 buts, Florian Thauvin, 58 buts, Jérôme, André Ayou, André Pierre Gignac.
Deux quiz d'affilée, je gagne contre Jérôme.
Bravo, toi, oui. Filou.
Mais t'as pas gagné! Et il a perdu le truc d'avant.
Mais non, mais là, c'est le tête à tête, là.
Bon, c'est la revanche de la finale 2006. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci, toi, Filou. Merci,
Scobler.
Jérôme.
Vous respectez
demain,
même pas Scobler.
Après c'est la rencontre entre Guingamp et Marseille. On vous embrasse. Passez une très belle nuit.
C'est un grand joueur, Scobler.
RMC, le super football show, l'After Foot.